إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au chapitre 18-19 dans certaines éditions de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ce chapitre est intitulé « La cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains est l'exagération au sujet des hommes pieux ». À travers ce chapitre et du suivant, le Cheikh explique que la cause du polythéisme majeur est l'exagération concernant les personnes pieuses. Exagération qu'Allah et son prophète ont interdite, que ce soit à cette communauté ou aux communautés précédentes. Il s'agit donc ici de citer les causes du polythéisme après en avoir cité les fondements et les dogmes. L'exagération désigne le fait d'outrepasser les limites concernant une chose. Le sens du titre de ce chapitre est donc « La cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains est due au dépassement des limites permises concernant les hommes pieux ». Le terme « pieux » englobe les prophètes, les messagers, les saints et toute personne se caractérisant par la piété et la sincérité envers Allah, qu'elle devance toutes les autres par ses bonnes actions et qu'elle se tienne sur une voie constante, chacune d'entre elles possédant un degré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est permis au sujet des personnes pieuses, c'est de les aimer pour Allah, de les respecter, de les prendre comme modèle dans la piété, de les prendre comme modèle dans les actes. S'il s'agit de messagers ou de prophètes, il est un devoir de suivre leur législation et leurs commandements et de marcher sur leurs pas. Voilà donc la limite permise par Allah à leur sujet. Les respecter, les aimer, s'allier à eux, prendre leur défense, leur venir en aide et tout autre comportement similaire. Une des manifestations de l'exagération à leur sujet est que certaines caractéristiques de la divinité leur ont été attribuées. Une autre de ces manifestations réside dans les propos suivants tenus par certaines personnes. Je cite ces propos-là, c'est la traduction d'une poésie qui s'appelle Al-Burda de Al-Busayri, où il dit « Cet être pieux connaît le secret de la table gardée et de la plume, ce bas monde et l'au-delà ne sont que l'une de ses largesses. » Il a dit aussi dans une de ses poésies « Si ces signes réellement avaient été à la hauteur de son si sublime degré, l'unique fait que soit son nom mentionné aurait permis aux morts, aux membres effrités et réduits en poussière d'être ressuscités. » Donc ce poète égaré dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu de miracle à la hauteur de son statut. Les commentateurs du poème ont affirmé « Même le Coran n'est pas à la hauteur du statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam » car on le préserve de cette croyance erronée. Et le seul miracle pouvant être à la hauteur de son statut serait qu'en mentionnant son nom, les morts réduits en poussière dont toute trace a disparu et dont les os se sont effrités, voient leurs os se rassembler et leur corps reprendre vie grâce à la mention du nom du prophète. Ceci est un type d'exagération
émanant de ceux qui adorent autre qu'Allah et s'adressent aux prophètes et aux messagers en dehors de lui. Il leur attribue même des caractéristiques divines sans aucune autorisation de la part d'Allah. Il s'agit d'une forme de polythéisme majeur et d'une comparaison de la créature au Créateur, ce qui est une forme de mécréance, qu'Allah nous en préserve. Il y a donc dépassement des limites permises d'une part et exagération d'autre part.
Il faut savoir que ce type de poésie, cette poésie entre autres, est récitée par la plupart de ceux qui fêtent l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Eid al-Mawlid. Pendant le Mawlid, ils récitent cette poésie shirkiya, cette poésie dans laquelle il y a du shirk et où ils attribuent certains pouvoirs au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont propres à Allah tabarak wa ta'ala. Sans compter toutes les sectes comme les Tijani ou d'autres qui tous les jours font du shirk dans leurs paroles, dans leurs croyances et dans leurs actes, comme le dhikr qu'ils font, qui s'appelle dhikrul fatih, qu'ils récitent après les prières obligatoires, dans lequel ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam la capacité d'ouvrir et de faciliter ce qui a été fermé. Le troisième comportement envers les pieux est l'indifférence, qui lorsqu'elle concerne les pieux consiste à ne pas s'allier à eux, à ne pas les respecter, ni leur accorder leur dû, et à ne pas leur accorder d'amour. Par conséquent, tout manquement dans les sentiments envers eux est considéré comme de l'indifférence à leur égard, et tout excès est considéré comme de l'exagération, et l'islam nous a appelés au juste milieu entre les deux, ni indifférence, ni exagération. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité 5 preuves pour appuyer le titre de son chapitre. La première preuve qu'il a citée, c'est la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, « Ya ahl al-kitab, la tarlou fi dinikum »« Ô gens du livre », c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, « n'exagérez pas dans votre religion ». Allah a interdit aux gens du livre d'exagérer, et l'interdiction ici se trouve dans un contexte de négation. Il englobe donc tous les types d'exagération dans la religion, conformément aux règles de grammaire arabe. Or, si l'on médite sur l'état des gens du livre et sur leurs récits, ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait part, on se rendra compte qu'ils ont exagéré au sujet des plus pieux d'entre eux. Ainsi, les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa, Jésus, au sujet de sa mère, Mariam, Marie comme ils disent, de ses apôtres. De même, les juifs ont exagéré au sujet de Uzair, des compagnons de Moussa, Moïse, de leurs prêtres et rabbins, et ainsi de suite. Quand je traduis les prénoms des prophètes, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas leur nom en arabe. Pour les Français, pour les chrétiens, pour les gens qui n'ont pas une culture islamique. Mais sinon, à la base, on n'a pas à traduire les prénoms des prophètes. Donc, ils ont prétendu qu'ils possédaient une part du royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils planifiaient les événements, ou qu'ils avaient une influence sur ce qui peut se produire dans la création, qui est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala et la propriété de personne d'autre en dehors de lui. Puis le cheikh a cité dans le recueil des hadiths authentiques, c'est-à-dire dans le Bukhari, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit au sujet de la parole d'Allah le Très-Haut, « وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا » Et ils ont dit, « N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Yaouq et Nasr. » Il s'agit de noms d'hommes pieux appartenant au peuple de Nuh, Noé. Après leur décès, Satan inspira à leur peuple, ériger donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et donner à ces édifices les noms de ces personnes. Les gens s'exécutèrent sans pour autant adorer ces édifices. C'est lorsque cette génération disparut et que la science fut oubliée qu'ils furent adorés. Dans ce récit, on voit que le polythéisme du peuple de Nuh était issu de l'exagération à l'égard des gens pieux et de leurs âmes. Shaytan, Satan, vint alors à eux en mettant en avant l'aspect de l'âme de l'homme pieux
de son influence et du fait que quiconque s'attache à cet homme verra ce dernier intercéder en sa faveur. Puis, la vénération de cet homme pieux les a poussés à adorer les images, les édifices, les idoles et les statues, comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ici, expliquant le fondement de l'apparition du polythéisme en disant, après leur décès, Satan insuffla à leur peuple, érigez donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et donnez à ces édifices les noms de ces personnes. Les gens s'exécutèrent sans pour autant adorer ces édifices. C'est lorsque cette génération disparut et que la science fut oubliée qu'ils furent adorés. Quand il dit « si la science fut oubliée », cela ne veut pas dire la science religieuse. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à vouloir se rappeler de ces hommes pieux étaient des savants, c'est-à-dire des savants connaissant la religion d'Allah. Non. Quand ici le cheikh va citer qu'ils sont savants, c'est-à-dire qu'ils savaient l'état de ces personnes mortes et qu'ils savaient qu'il ne fallait pas les adorer et qu'ils avaient fait ces images juste pour se rappeler d'eux. Car un savant de la législation islamique ne fera jamais ce type de choses, des causes qui mènent au polythéisme majeur. Puis le cheikh, rahimahullah, a cité une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ibn al-Qayyim a dit, plusieurs prédécesseurs ont dit que lorsque ces hommes pieux moururent, les gens se recueillirent sur leurs tombes, ils façonnèrent ensuite des statues à leur image, beaucoup plus tard, elles furent adorées. Ces citations sont un argument dans le sens où ceux qui se sont adressés aux images des hommes pieux étaient des gens connaissant leur situation. Ils savaient qu'ériger des images ne signifiait pas les adorer en soi, bien que c'était une chose qui était mauvaise. Et ils savaient que ces personnes qui sont mortes sont pieuses et qu'ils ont mis ces images à ces endroits-là juste pour se rappeler de leurs adorations et faire pareil qu'eux, les prendre en modèle. Mais ces images de personnes pieuses et d'être vénérés devinrent un moyen, une voie et une cause de leur adoration dans le futur, lorsque cette connaissance fut oubliée. En outre, il est possible que Satan s'approche de l'image et fasse croire à celui qui l'observe ou s'adresse à elle que l'image s'exprime, que la bouche de l'image parle et que l'on entend d'elle certains propos et autres simulacres qui font s'attacher les cœurs aux âmes de ces gens pieux et les incitent à s'attacher à eux. C'est d'ailleurs ce qui arrive aux gens qui se recueillent près des tombes et en adorent les occupants avec Allah, ce qui est une cause de polythéisme. Puis le cheikh a cité la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam « ne me couvrez pas exagérément d'éloges comme ce fut le cas des chrétiens concernant Isa, fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, dites par conséquent serviteur et messager d'Allah », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit un autre type d'exagération, c'est l'exagération dans les éloges. Et quand il a dit « n'exagérez pas dans les éloges comme les chrétiens ont fait avec Isa, fils de Maryam », cela ne veut pas dire que ce qui est interdit ici est simplement de dire que le prophète est le fils d'Allah, comme les chrétiens ont dit de Isa, fils de Maryam. Mais tout ce qui est interdit, c'est tout type d'exagération, que ce soit celle-ci ou autre. Il s'agit donc de la comparaison d'un acte à un autre et non la comparaison ou l'interdiction du type d'éloge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on le couvre d'éloge du fait que les chrétiens se sont comportés de la même façon avec le fils de Maryam, ce qui les a menés à la mécréance et le polythéisme en prétendant qu'il était le fils d'Allah, gloire et pureté à lui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté à la fin « Je ne suis qu'un serviteur, dites par conséquent serviteur et messager d'Allah. » Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on exagère dans les éloges vis-à-vis de lui, qui est le meilleur des hommes, qui est le chef des fils d'Adam, qui est le bien-aimé d'Allah, alors qu'allons-nous dire sur le fait d'exagérer sur autre que lui? Les gens qui exagèrent dans les éloges sur certains savants ou sur certains hommes pieux ou sur certains imams, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on exagère dans les éloges, même pour lui, qui est le meilleur des hommes. que l'on doit aimer plus que notre personne, que nos enfants, que nos familles, que la terre entière. Sallallahu alayhi wa sallam.
Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a rapporté que Omar, radiallahu anhu, a aussi dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous de l'exagération, car c'est ce qui a causé la perte des générations qui vous ont précédé. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed al-Nasa'i. Dans ce hadith, il y a une interdiction de tous les types d'exagération. L'exagération est donc la cause de tout mal et emprunter la voie du juste milieu est la cause de tout succès et de tout bien. Puis le cheikh a rapporté cette dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à trois reprises, malheur aux exagérateurs, malheur aux exagérateurs, malheur aux exagérateurs. Certains le traduiront par malheur aux extrémistes, malheur aux extrémistes, malheur aux extrémistes. Il s'agit ici de ceux qui exagèrent dans leurs actes et dans leurs propos, qui cherchent trop à savoir ou sont trop zélés dans une chose qu'Allah n'a pas permise, subhanahu wa ta'ala. Les trois termes qui sont utilisés en arabe pour citer l'exagération se rejoignent dans al-ghulou, qui est le fait de dépasser la limite permise. Le cheikh rahimahullah a donc expliqué que la cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains est l'exagération au sujet des gens pieux. Le peuple de Nuh, alayhi salam, a outrepassé les limites concernant les gens pieux auprès des tombes desquelles ils se recueillaient, tombes qu'ils ont divinisées et qui sont donc devenues des divinités en dehors d'Allah. Les chrétiens ont eux exagéré concernant leur prophète, Isa, alayhi salam, ainsi que les apôtres, mais aussi concernant les prêtres, qu'ils ont élevé au niveau de divinité avec Allah, comme on sait quand ils disent saint un tel, saint un tel, saint Nicolas, saint Pierre, saint, saint, saint. Il y a un saint partout. Enfin, même dans cette communauté, certains ont attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines caractéristiques de la divinité, alors que c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. De même, il y en a de cette communauté qui font la même chose que les chrétiens. Saint un tel, saint un tel, saint un tel, wali un tel, wali un tel, Abdul Qadir Jilani, Shadili, Rifa'i, etc., etc., etc. Et il les invoque en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Hassan, Al-Hussein, comme les Rafidah qui adorent la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Et ils contredisent par cela la base de la religion, qui est le tawhid. Le monothéisme pur, l'unicité vouée, un culte exclusif à Allah. Puis le cheikh a dit les points à retenir. Premièrement, quiconque comprend ce chapitre et les deux suivants se rendra compte de l'étrangeté de l'islam et verra se manifester de manière étonnante l'omnipotence d'Allah et sa capacité à faire se retourner les cœurs. Deuxièmement, savoir que la première forme de polythéisme apparue sur terre est due à une croyance erronée et ambiguë concernant les gens pieux. Troisièmement, connaître la première chose qui a altéré la religion des prophètes, qu'elle en est la cause bien que ce soit Allah qui ait envoyé ses prophètes. Quatrièmement, connaître la raison pour laquelle les gens acceptent les innovations, bien que les lois religieuses et la saine nature les rejettent. Cinquièmement, la cause de tout cela est la confusion entre la vérité et la fausseté, avec d'une part l'amour des pieux et d'autre part les agissements de certains gens affiliés à la science ou certains gens de science et de religion qui ne désiraient par leurs actes que le bien. Ces actes furent ensuite interprétés différemment par les générations suivantes. Ce point-là est essentiel à comprendre. Que la cause du shirk et de l'égarement, c'est la confusion entre la vérité et le faux. Quand on dit aux gens, n'écoutez pas les ambiguïtés. Faites attention aux ambiguïtés. Que veut dire ambiguïté? C'est quelque chose d'ambigu, c'est-à-dire qui n'est pas clair, dont la fausseté
n'est pas claire. Et d'ailleurs, cette chose ambiguë, elle est comme ici, une chose confuse entre la vérité et le faux. Il y a dedans une part de vrai et il y a dedans une part de faux. Mais la réalité de cette ambiguïté est qu'elle est fausse, sauf qu'elle apparaît sous une image de vérité auprès des ignorants, parce qu'il y a une part de vrai dedans. Si un égaré ou un shaitan venait dire aux gens, viens adorer une statue en dehors d'Allah, une pierre en dehors d'Allah, personne ne va le faire. Viens innover en islam quelque chose de contradictoire à la voix du prophète, personne ne va le faire. Il va bien falloir que cet innovateur ou cet égaré habille son mensonge, son égarement d'un habit de vérité, avec des versets, avec des hadiths. D'où l'importance de prendre sa religion que de personnes reconnues pour leur piété et leur conformité, et ne la prendre de personne d'autre. Car si cette ambiguïté vient s'attacher à ton cœur, comment vas-tu faire pour t'en débarrasser après ? Je m'étonne de la légèreté des gens concernant leur religion, qui sont là à cliquer sur n'importe quel lien qu'ils trouvent sur YouTube ou Internet, et écouter n'importe quelle personne qui sort parler de l'islam. Et après, ils s'étonnent qu'ils s'égarent, et que leur foi baisse, et qu'ils renient certaines choses de l'islam auxquelles ils étaient attachés auparavant. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Sixièmement, l'explication du verset de la sourate Nuh. Septièmement, connaître la nature de l'être humain. La vérité diminue dans son cœur et la fausseté augmente. Huitièmement, il y a une preuve appuyant les dires des prédécesseurs concernant le fait que l'innovation est une cause menant à la mécréance. Neuvièmement, Satan sait parfaitement à quoi mène l'innovation, même si l'intention de l'innovateur est bonne. Dixièmement, connaître la règle générale, à savoir l'interdiction de l'exagération et la connaissance de ce à quoi elle mène. Onzièmement, l'effet néfaste du recueillement auprès d'une tombe dans le but d'accomplir une bonne œuvre. Douzièmement, l'interdiction des images et la sagesse résidant dans leur destruction. Treizièmement, la grande importance du récit cité dans ce chapitre, le profond besoin dont en ont les gens malgré leur insouciance. Quatorzièmement, le point le plus étonnant, c'est que les gens de l'innovation ont pourtant lu ce récit dans les livres de hadith et d'exégèse du Coran, et ils connaissent le sens des mots, mais Allah s'est interposé entre eux et leur cœur jusqu'à ce qu'ils croient que ce que pratiquait le peuple de Nuh fait partie des meilleurs actes d'adoration, et que ce qu'Allah et son prophète leur ont interdit est la mécréance qui rend licite le sang et les biens d'une personne. Subhanallah. Quinzièmement, le fait évident qu'ils ne cherchaient en fait que l'intercession. Donc cela montre que même s'ils ne cherchaient que l'intercession, mais l'intercession en soi par un mort est du polythéisme majeur. Seizièmement, les gens ont pensé que c'était cela le but des savants qui avaient façonné les statues, c'est-à-dire de rechercher leur intercession. Dix-septièmement, l'exposé de la plus grande importance compris dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne me couvrez pas exagérément d'éloges, comme ce fut le cas des chrétiens concernant Isa, fils de Maryam, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui a transmis le message clair. 18thièmement, la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le malheur qui s'abat sur les exagérateurs. 19thièmement, le fait évident que les statues n'ont été adorées qu'après que la science ait été oubliée. C'est la preuve qu'il faut connaître l'importance de la science et savoir que sa disparition est un grand mal. Et ceci répond à toutes les personnes qui disent « Oh, mais le tawhid, on connaît, on n'a pas besoin d'apprendre le tawhid. On n'a pas besoin de réviser le tawhid. » Car en délaissant la science et l'apprentissage du tawhid, c'est la manière par laquelle le shirk va se répandre. Vingtièmement, la raison de la disparition de la science est la mort des savants. Effectivement, quand les savants meurent, la science qu'ils portaient disparaît avec eux. C'est pour cela que c'est un grand malheur pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le plus grand malheur que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ait eu, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour diriger les croyants et les informer et juger leurs différends de son vivant. Donc quand les croyants divergeaient à son époque, ils revenaient à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tranchait la question. Mais les divergents divergences qui sont apparues après lui, on les règle en revenant au Coran et à sa Sunna, en prenant comme juge le Coran et la Sunna authentique.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.